Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR.
Evening Sandy in the house.
Radio Rosana Piperino.
Que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
On comprend qu'on ne vit pas dans une ville normale. À chaque entrée de la ville, il y a un poste de blocage.
Et cette ville qui n'est pas une ville normale, c'est Mariupol en Ukraine. Une ville qui n'est pas une ville normale, surtout depuis que les Russes contrôlent le détroit de Kerch, qui mène au port de Mariupol. C'est l'escale reportage ce soir. Elle est signée Claude Brouillot, 18h50. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. L'Europe telle que vous l'aimez, vous la détestez ou vous la découvrez avant le vote du mois de mai. Angélique Boin vous fera découvrir justement un outil qui s'appelle Tips, un outil de paiement instantané en Europe, instantané même entre vous et moi si on le veut. 18h55, le monde à l'envers, Franck Madvo nous donnera son pays préféré de l'année. Mais avant, nous allons en Turquie et au Kurdistan. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Vès. Un jour dans le monde.
À la mi-décembre, déjà, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, faisait planer le doute sur une offensive contre les Kurdes du nord de la Syrie, une opération ciblée qui venait semer le trouble encore un peu plus dans des relations compliquées avec le grand allié américain. Depuis, Donald Trump a décidé de retirer les troupes américaines de Syrie. La nature ayant horreur du vide, le président turc a les mains plus que libres désormais. Et qui oserait protéger les Kurdes qui ont pourtant rendu de fiers services contre Daesh. Bonsoir Didier Billon.
Bonsoir.
Directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Est-ce que cette offensive turque dont on dit depuis maintenant 15 gros jours qu'elle est imminente en fait, est-ce qu'elle l'est vraiment ou est-ce qu'on est plus dans la manœuvre politique finalement que la manœuvre militaire ?
Je pense qu'il y aura une intervention militaire. Je pense qu'elle ne sera pas de grande ampleur. Et pour le moment en tout cas, nous sommes plutôt dans les manœuvres politiques, dans les manœuvres diplomatiques. Parce que, comme vous l'avez indiqué, la Turquie et le président Erdogan se sont replacés de façon assez magistrale, au demeurant au centre du jeu politique.
On va y revenir, ouais.
Et donc il a parfaitement compris qu'aujourd'hui, il a plus intérêt à abattre des cartes politiques et diplomatiques plutôt que de lancer une grande offensive.
Donc c'est arrêtez-moi ou je fais un malheur ou pas ?
Je pense qu'il y aura de toute façon quelques malheurs, malheureusement, parce qu'il y aura offensive militaire. Je crois quand même qu'il y a un fort contentieux entre les Kurdes organisés par le Parti de l'Union démocratique, qui sont la franchise syrienne du fameux Parti des travailleurs du Kurdistan. Nous savons qu'il y a une haine inextinguible entre l'État turc et ses Kurdes. Ces Kurdes-là, je précise bien. Et donc, il y a quand même quelques contentieux à régler. Et puis, il y a une obsession turque, c'est tout faire pour empêcher qu'il y ait une sorte d'entité autonome dirigée par ces Kurdes du pays grec D le long de la frontière turco-syrienne. Donc, un des aspects des négociations, des pourparlers, des manœuvres politiques, c'est de constituer une zone de sécurité, une bande de sécurité le long de la frontière.
Et on va voir effectivement si c'est avec Damas que ça se négocie, ce genre de choses. Avant d'y venir, ces fameux Kurdes de Syrie qui sont visés, qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui, y compris en nombre d'ailleurs? On parle de qui exactement? J'allais dire qu'on parle de quoi? C'est très méchant. On parle de qui?
Les Kurdes. Alors, il ne faut pas réduire justement les Kurdes de Syrie, parce que avant le début du conflit, c'était à peu près 15% de la population, 10 à 15% de la population syrienne. Donc, c'est une grosse minorité, une grosse communauté. Mais autre chose sont les Kurdes qui sont organisés politiquement par le Parti de l'Union démocratique. Je pense qu'il ne faut jamais réduire l'un à l'autre. Quand on dit les Kurdes, cela me paraît tellement réducteur que cela en devient faux. Être kurde n'est pas une catégorie politique. Il y a des organisations politiques et celle qui domine, et elle a fait le ménage autour d'elle, c'est ce fameux PYD, Parti de l'Union démocratique.
Mais là donc, en gros, ça veut dire combien de personnes? Ça veut dire... C'est chiffrable, on sait ça ou pas?
Je pense qu'en termes de combattants, les milices liées au Parti de l'Union démocratique, c'est 30 000 combattants, probablement, dont on sait qu'une moitié environ sont des femmes. Ça, c'est une spécificité de ces combattants.
Et de ces Kurdes-là, d'ailleurs, la place des femmes dans le paysage.
On n'a pas du tout ce type de phénomène en Irak, par exemple, chez les Kurdes d'Irak. On a ce phénomène chez les Kurdes de Turquie lié au PKK. Et puis, bien sûr, en Syrie, c'est ce dont ou celle dont nous parlons aujourd'hui. Donc, c'est une force combattante qui n'est pas très nombreuse, mais qui est assez aguerrie, qui est assez assez courageuse au combat, efficace au combat. On l'a bien vu contre Daesh, parce bien que sûr. Ce sont les seuls qui, au sol, mm-hmm. ont eu le courage de s'affronter directement.
Kobané, Raqqa, tout ça, c'est grâce à eux.
Absolument,
quand même.
Absolument. C'est alors, pour le coup, on l'a pas oublié. Il y a eu aussi les bombardements, mm-hmm. il y a eu l'aide logistique des Américains jusqu'à ces jours derniers. Bien évidemment, tout cela compte, mais quand il faut aller au combat au sol, et ben c'était ces milices kurdes qui étaient au premier plan.
Dizzy Billion, s'il y avait attaque, ce dont on parle, c'est notamment cette ville qui s'appelle Manbij, c'est ça ?
Manbij, oui.
Pourquoi ce choix-là ? Pour que les gens arrivent à situer, on est tout près de la frontière à Manbij. On est Kobané est au-dessus. L'Afrin est du côté de l'Ouest. Voilà, pour qu'on arrive à situer. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici, là, précisément ?
Non, si vous voulez, très schématiquement, sur la bande qui suit la frontière turco-syrienne, vous avez une zone de population kurde, mais qui existe depuis fort longtemps. Or, les milices liées au Parti de l'Union démocratique ont conquis de vastes territoires à l'est de l'Euphrate, et puis à l'ouest de l'Euphrate. Et Manbij, justement, est à la jonction. Et donc, les Turcs sont obsédés par le fait d'empêcher que ces zones qui se trouvent à l'est et à l'ouest de la frontière turco-syrienne puissent se rassembler sous l'égide de ces Kurdes.
Et alors, si y avait offensive, est-ce que qui a les moyens de quoi, au fond ? Parce que vous parliez du courage de ces Kurdes-là, de ces femmes en tête, ça c'est une chose, mais est-ce qu'on peut tenir tête aux armées turques quand on est les Kurdes ou pas ?
Non, je crois qu'il faut être très sérieux. Il y a une asymétrie entre une armée turque, qui est une armée classique, qui a du matériel, qui est entraînée, qui a des forces spéciales. Et puis de l'autre côté, ces milices qui, au-delà de leur courage, n'ont pas un matériel lourd, très sophistiqué, surtout avec le départ des Américains.
Alors je vous pose la question parce que lorsqu'il y a eu l'offensive sur l'Afrin il y a quelques mois de ça, ça a été beaucoup plus compliqué pour les Turcs qu'il n'y paraît en fait. Ils s'étaient tous vantés, enfin les Turcs s'étaient vantés en disant on va balayer tout ça, ça va durer 2 semaines. Ça a duré beaucoup plus que ça.
Ah oui, ça a duré plus de 2 mois. En réalité, je pense qu'il y a un facteur très important dont d'ailleurs, à mon avis, Erdogan doit être parfaitement conscient. Et c'est peut-être pour ça que l'offensive dont on nous parle beaucoup n'a pas encore eu lieu. Bah, ma foi, tant mieux, même si c'est reculé pour mieux sauter. Parce que, vous le savez, l'armée turque a été victime de nombreuses purges au cours des dernières années. Et en termes de capacité opérationnelle, de capacité logistique, l'armée turque n'est plus au fait de sa puissance. Alors, bien évidemment, encore une fois, il y a une asymétrie par rapport à des milices aussi aguerries soient-elles, mais en même temps, cette armée turque n'est pas la plus efficace et efficiente qu'il soit.
Dizzy Billion, je voudrais qu'on aille faire un aller-retour à Istanbul, retrouver Alexandre Billet, voir ce qu'on dit justement là-bas en ce moment. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Fabienne.
Alors, qu'est-ce qu'on dit chez vous ? Est-ce qu'on considère précisément que cette fameuse offensive est imminente ? Est-ce qu'il y a cette espèce d'atmosphère pied de guerre qu'essaye de créer Erdogan ou pas du tout ?
Alors écoutez, je dirais qu'on est à la fois dans le discours martial, oui, mais quand même encore dans une sorte d'attentisme pour le moment. Pour deux raisons. D'abord, parce que le départ des troupes américaines ne sera pas en claquant des doigts, on parle de 30, 60, peut-être 100 jours avant le départ effectif des forces américaines. Et d'autre part, le pouvoir d'Ankara, je pense, attend toujours de voir comment, quelle forme va prendre ce retrait. Les Turcs savent très bien qu'à Washington, l'establishment est majoritairement contre ce retrait, que les contre-pouvoirs au président sont nombreux. Donc, il y a quand même, malgré tout, je dirais, toujours une prudence ici. D'ailleurs, la presse pro-gouvernementale n'a pas présenté l'annonce du retrait comme une victoire diplomatique pour Erdogan, ce qu'elle fait pourtant cette presse dès qu'elle en a l'occasion. Donc d'une part, pour le moment, prudence, même si bien évidemment le pays se prépare à l'offensive. On l'a vu ces derniers jours avec le renforcement à la frontière syrienne, avec des hommes et du matériel déployés, notamment des blindés. Recep Tayyip Erdogan qui a dit et qui répète ces derniers jours que le pays était prêt, pouvait lancer une opération militaire dans la minute. Donc un discours très martial qui est d'ailleurs très utile aussi pour des fins de politique intérieure. Vous savez que Recep Tayyip Erdogan, enfin le parti de Recep Tayyip Erdogan est allié avec l'extrême droite ultranationaliste du MHP, qu'il y a des élections municipales fin mars et qu'il est toujours bon de galvaniser le côté martial, nationaliste d'une partie des électorats.
Alors Alexandre, on en parlait à l'instant au sujet de Manbij. Qu'est-ce qu'on dit ? Jusqu'où veut aller Erdogan ? Pour prendre quoi et quel territoire ? Qu'est-ce qu'il dit Erdogan à sa population turque à ce sujet-là ?
Alors la Turquie n'a pas nécessairement intérêt, Recep Tayyip Erdogan n'a pas intérêt à s'encombrer d'une administration formelle dans le nord de la Syrie. C'est pas son programme, ce serait très lourd, très risqué. D'autant plus, on le voit ces derniers jours, ces dernières heures, que des forces fidèles à Bachar el-Assad remontent vers le nord et Ankara ne veut pas prendre le risque d'une confrontation directe avec l'armée syrienne. Donc, en fait, il y a une chose essentielle aux yeux du pouvoir turc, c'est idéalement d'éradiquer totalement les milices kurdes des YPG. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, le premier objectif, disons, réaliste d'Ankara, c'est surtout de les éloigner, ces YPG, de sa frontière, de créer une zone tampon la plus profonde possible pour qu'il n'y ait pas un seul millimètres de frontières turques contiguës avec des territoires contrôlés par les YPG, une zone qui serait probablement gérée par des forces fidèles à Ankara. Et déjà ça sera difficile à mettre en place dans une région où la population est majoritairement kurde, comme à Kobané par exemple, cette ville qui est collée littéralement à quelques mètres de la frontière turque.
Alexandre, j'ai une question subsidiaire pour vous. Alors j'imagine bien que vous n'êtes pas sous le bureau d'Erdogan, mais je suis assez curieuse de la teneur de ce fameux coup de fil qu'il y a eu entre Trump et Erdogan. En gros, est-ce que Trump lui aurait dit prépare-toi, attends-toi à savoir que parce que je m'en vais, ou est-ce qu'il lui a dit la place est libre, vas-y, moi je pars. Qu'est-ce qu'on dit de ça, la teneur de cette conversation, qu'est-ce qu'on en dit?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges diplomatiques ces derniers jours et ces dernières semaines, que ce soit d'ailleurs des discussions téléphoniques entre Trump et Erdogan, mais aussi évidemment au niveau diplomatique, des affaires étrangères, ou aussi des services de renseignement. Alors, la presse turque a bien voulu croire ici que Donald Trump avait pris sa décision quelques jours avant son tweet lors d'une discussion avec Recep Tayyip Erdogan. Bon, ça reste à voir, mais de toute façon, la Turquie demandait depuis des mois la fin du soutien américain au YPG. Depuis des semaines maintenant, Erdogan dit qu'une offensive contre les milices kurdes est imminente, que l'armée est prête. Donc, certainement, il y a eu des échanges, des indices que les États-Unis allaient bouger, allaient changer de position, mais malgré tout, il n'est pas impossible de croire que quand même la présidence ici a été surprise par la forme, par la rapidité de l'annonce, par le caractère, encore une fois, imprévisible de Donald Trump.
Merci beaucoup Alexandre Billette, avec nous depuis Istanbul. Didier Billon, je vais vous reposer la même question. Est-ce qu'on sait effectivement ce qui s'est passé réellement? Est-ce que même Erdogan est tombé de sa chaise quand même en apprenant que Trump allait partir, ou est-ce que tout ça est un peu cousu de fil blanc?
Oh, c'est cousu de fil blanc, très probablement, parce que, vous savez, on a beaucoup entendu au cours de ces derniers mois qu'il allait y avoir une rupture entre les États-Unis et la Turquie, que même la Turquie éventuellement sortirait de l'OTAN. Je n'ai pour ma part jamais cru à cela. Je pense que l'alliance entre les États-Unis et Ankara, qui est ancienne, qui est profonde, qui est solide, elle ne se rompra pas pour une raison très simple, c'est que chacun y trouve son intérêt et que pour Ankara, Bruxelles ou Washington, pour le coup, seront toujours plus importantes que Soleimani, Raqqa, etc. Ça, c'est évident. Mmh. Et réciproquement, les États-Unis, même en dépit même des élucubrations de M. Trump, il y a quand même des gens qui pensent stratégie au département d'État, au Pentagone, etc. Or, il est évident que s'appuyer sur les Kurdes quand il s'agit d'aller combattre Daesh est une bonne et belle chose, de leur point de vue. Et c'est du cynisme, c'est de la réelle politique. Mais quand on revient aux équilibres régionaux, c'est évidemment la Turquie qui compte, entre autres. Il y a d'autres pays qui comptent, mais dans la configuration que nous évoquons. Donc, chacun comprend qu'il n'a pas intérêt à aller trop loin.
Donc, la teneur du coup de quand je vous entends, c'est quelque chose du genre maintenant c'est à toi de jouer. Ouais, et tu vas prendre une place énorme dans cette région, on attend de toi que tu prennes la place qui te revient. En gros,
c'est
quoi.
À peu près ça. Oui, c'est à peu près ça. Tout à fait.
On parlait de l'administration tout à l'heure, effectivement, les Turcs n'ont absolument aucun intérêt à prendre un énorme territoire de ce nord de la Syrie pour éviter d'avoir à administrer derrière. Qu'est-ce qui s'est passé chez les voisins, par exemple, typiquement? Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser du monde, laisser une administration, faire venir de la population? Dans ces cas-là, ça marche comment?
Non, ce qui est très inquiétant, à mon avis, c'est qu'on, tout à l'heure, nous avons évoqué le cas d'Afrin, c'est-à-dire l'opération militaire qui a eu lieu au début de cette année 2018 et qui a été beaucoup plus longue que prévu. Alors, l'armée turque combattait, mais elle combattait avec des milices islamistes. Je ne dis pas djihadistes, je dis bien islamistes. Et aujourd'hui, ceux qui, à Afrin, dans la région d'Afrin, sont en responsabilité de maintenir l'ordre et la sécurité, ce sont ces milices qui commettent des exactions. Mmh. Évidemment, on peut s'en douter. Et donc, la Turquie est présente militairement, bien sûr, elle ne s'est pas retirée de la région d'Afrin, et en même temps, elle n'est pas au premier lieu des affrontements avec la population, du maintien de l'ordre, etc. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a une action de type, comment dirais-je, politico-humanitaire. Elle rouvre des puits d'eau, elle remet en place les réseaux électriques, etc. Donc elle veut apparaître non pas comme l'occupant.
Donc elle était pyromane et pompier à la fois.
Absolument, et c'est là le non pas le double jeu, mais le jeu un peu subtil, un peu compliqué, qui peut se retourner en son contraire à un moment donné. Mais pour l'instant, la Turquie a en ses mains bon nombre de cartes, il ne faut pas le nier.
Mais c'est ce qui se passera s'ils s'approchent et s'ils prennent même cette ville de Manbij, ce sera administré comment? Ça marchera comment? Qu'est-ce qu'on laissera sur place au fond?
Je pense que justement, il faudra des accords locaux avec des rebelles, des débris de l'armée syrienne libre, etc. Parce qu'il faudra bien sur le terrain maintenir l'ordre et la discipline. Et puis alors, il y a une autre inconnue, c'est les Kurdes eux-mêmes, enfin les milices kurdes et YPG. Que vont-elles faire? On parle beaucoup depuis maintenant plusieurs semaines, avant même la décision de Trump, de contacts réguliers de haut niveau entre ses responsables kurdes et Damas.
Alors, j'allais vous y emmener, justement, effectivement. Ça a commencé, donc, ces discussions avec Damas. Oui. Elles ont commencé sous quelle forme? Et puis, avec qui? En fait, on parle avec qui, là?
Sous quelle forme? Il est évidemment très compliqué de le dire, parce qu'il n'y a pas de communiqué de presse en général.
En
réalité, Damas et le président Bachar al-Assad se sent l'hubris de la victoire. Ah oui. On sait dans quelles conditions. Et les milices kurdes, elles-mêmes, comprennent qu'il y a quand même une pression de la Turquie, quelle que soit l'ampleur de l'intervention militaire qui est maintenant à l'ordre du jour. Donc chacun essaie d'y retrouver ses petits, si vous me passez l'expression, et finalement on peut imaginer qu'il y a une solution avec une autonomie des zones kurdes qui serait dans le cadre d'un État syrien maintenu souverain et unitaire. Ça, c'est pas une équation totalement aberrante, et les Russes seraient plutôt favorables à cette solution, parce que les Russes, ils ont qu'une seule obsession, c'est de maintenir un État syrien. Quelle qu'en soit la forme, qu'il soit fédéral ou pas, c'est pas leur problème. L'agenda des Iraniens est très différent, mais là je parle de ceux qui comptent vraiment sur les zones kurdes.
Donc une espèce de d'état tampon, effectivement, qui appartiendrait toujours à la Syrie.
Pas d'état, de zone.
Alors de zone, mais pardon, les mots ont un sens, de zone tampon, une sorte de DMZ en fait, de zone démilitarisée entre les deux. Est-ce que ça veut dire que on peut imaginer que l'offensive attendra que des pourparlers avant sur ce sujet-là, ou est-ce que l'offensive permettrait d'accélérer ces pourparlers-là?
Très difficile à dire en ce jour. Je pense qu'il y aura une dialectique un peu subtile, mais encore une fois, mais ça j'y tiens véritablement, alors que tout le monde pense qu'il va y avoir une intervention militaire turque globale, d'ampleur, je ne pense pas qu'au contraire elle soit d'ampleur, elle sera de courte durée, elle sera très ciblée comme un moyen d'activer, de renforcer, de faire pression sur les négociateurs.
Vous avez parlé de la Russie et de ce qu'elle souhaiterait, effectivement, parce que son rôle dans la région, on le connaît. Quid de l'Iran, par exemple, qui alors est complètement muette sur cette histoire-là depuis le début, mais qui a aussi peut-être une carte à jouer?
L'Iran est dans une situation difficile, parce qu'aujourd'hui, les Iraniens considèrent que leur présence physique est absolument indispensable. On sait, c'est le fameux corridor qui va de l'Iran jusqu'à la Méditerranée. Donc, ils ont besoin de rester massivement présents, sauf que les Russes, à la limite, ne sont pas d'accord. Il y a actuellement des divergences entre Russes et Iraniens, justement, sur l'équation de construction d'une paix souhaitable et, j'espère, rapide en Syrie. Mais là, ce sont des vœux de ma part. Et donc, ces Iraniens sont discrets, d'autant que sur la question kurde, ils ne veulent pas trop s'avancer. Nous le savons, il y a aussi un problème kurde. Même s'il est géré plutôt habilement par les Iraniens depuis de nombreuses années, il n'empêche que, par exemple, Rouhani a rencontré Erdogan il n'y a pas longtemps. Ils ont fait un communiqué commun et, comme par hasard, le centre de se communiquer, c'était « il n'est pas question que les Kurdes prennent leur autonomie nulle part ».
Didier Billon, les Kurdes nous ont appelés, nous, la France, en disant notamment « attention, parce que des djihadistes étrangers, il y en a, notamment des djihadistes français, il se pourrait bien, en cas d'offensive, qu'on soit incapable de retenir ces gens-là ». Est-ce que ce sont des menaces? Est-ce que, effectivement, selon vous, c'est une réalité? Est-ce que ce risque est réel?
Oui, c'est un risque réel, parce que les Kurdes, on leur fait porter beaucoup plus de responsabilités que ce qu'ils ne sont capables d'assumer. Je ne dis pas qu'ils sont démunis, ils ont une expérience, ils ont des armes, etc. Mais en même temps, ils ne sont quand même pas très nombreux, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Et donc, évidemment, il y a une forme de chantage à l'encontre de la France, mais en même temps, imaginons qu'il y ait une offensive militaire sérieuse de la part de la Turquie, que les Kurdes soient obligés de reculer, de laisser des prisons ou des zones d'enfermement de ces djihadistes, et bien ceci prendrait la poudre d'escampette. Donc, à la fois, c'est une menace sur la France, parce qu'il faut, par tous les moyens pour ces Kurdes, se trouver encore des gens sur lesquels s'appuyer. la France en fera-t-elle partie? J'en doute un peu. Et de l'autre côté, il y a une réalité, c'est la réalité des dizaines, des centaines, on ne connaît pas le chiffre, probablement des centaines de djihadistes qui sont maintenus et surveillés par les Kurdes.
Mais est-ce que justement la lutte de ce qui reste de l'État islamique en fait est réellement entre les mains des Kurdes, au-delà même des prisonniers qui sont là? Donc ça veut dire que si effectivement il y avait une forme d'explosion dans cette zone-là, est-ce que ça veut dire que la nature ayant horreur du vide, il peut y avoir des poches qui se reforment, y compris dans ces endroits-là ou pas?
Indépendamment de la politique des Kurdes, indépendamment de l'intervention des Turcs, Daesh n'est pas éradiqué, quoi qu'en pense M. Trump. Donc cette organisation, elle ressurgira sous cette forme ou sous d'autres formes. Les conditions qui ont sociales et politiques qui ont prévalu à l'émergence de Daesh restent les mêmes. Rien n'a été réglé. Donc Daesh a subi des coups militaires, évidemment, c'est incontestable, c'est indéniable. Et en même temps, il y a encore des poches de résistance organisées. N'oublions pas ce qui se passe à Idlib non plus, même si Daesh n'est pas massivement présent à Idlib. Et donc, il y a des cellules dormantes, comme on dit savamment. Ça, c'est une évidence, c'est une réalité. Ces gens ne sont pas idiots, ne sont pas stupides, ils vont pas aller mourir pour rien. Ils ont un objectif, des objectifs politiques, et donc ils ne sont pas éradiqués. Donc ils ressurgiront, je le regrette, et nous le regrettons tous, mais sous une forme ou sous une autre.
Parce que dans les termes du retrait syrien, il y a eu quelques phrases de Trump, alors c'est la lecture de Trump, effectivement, puis la justification qu'il donne pour partir, par ailleurs, qui dit en gros aux Turcs qu'ils finiront le travail, puisque eux, les Américains, ont fait le gros du travail autour de Daesh. En gros, les Turcs auront les moyens de terminer ce qui reste. Tout ça est évidemment du vœu-pieux ou de la politique, tout simplement.
C'est de la politique, mais c'est de la mauvaise politique, parce que je pense qu'en plus, le problème des Turcs, ce n'est pas d'éradiquer Daesh. Alors, ils ne sont plus dans une forme de complaisance à son égard, comme ils l'ont été jusqu'entre 2012 et 2016.
Bien sûr, où la frontière était très poreuse.
Oui. Bon, on n'en est plus là, parce qu'eux-mêmes ont été victimes d'attentats en Turquie, etc. Donc, désormais, il n'y a plus de complaisance. Mais est-ce que c'est, sur leur agenda, l'objectif principal? Je ne le crois pas. L'objectif principal, c'est celui que nous avons évoqué, c'est-à-dire tout faire pour empêcher qu'il y ait une zone kurde autonome à la frontière, ça c'est leur objectif.
Et en tout cas, c'est probablement l'une des premières choses qu'on suivra dans cette année 2019 à venir, ce qui se passera avec ces Kurdes et le poids régional que prend la Turquie. Didier Billon, directeur adjoint de l'IRI, spécialiste du Moyen-Orient avec nous dans Un jour dans le monde. Merci mille fois.
Merci.
France Inter. Fabienne Synthès. Un jour dans
la
le
suite
monde.
D'un jour dans le monde est à Mariupol, en Ukraine, dans le port de Mariupol. Et croyez-moi, c'est pas un endroit très riant. La loi martiale a été levée hier. Claude Brouillot nous emmène là-bas. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. L'Europe comme on l'aime ou comme on la quitte, comme tous les jeudis. Angélique Bouin nous fera découvrir un outil de paiement instantané. Ça marche même entre particuliers. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et puis le monde à l'envers. Et Franck Madvon ce soir. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne.
Vous allez nous révéler votre pays préféré de l'année. Ben c'est les Césars du pays ce soir.
Ouais, vous savez, chaque année, The Economist, nos confrères britanniques désignent leur pays de l'année. C'est l'Arménie, d'ailleurs, pour 2018. Et nous, quel pays pourrait-on choisir à France Inter? Vous aurez la réponse tout à l'heure, dans 15 minutes.
Mais ce teasing, ce suspense, c'est absolument insoutenable. Franck Madvoin, tout à l'heure, autour de 18h55. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Buffalo, aux États-Unis. Mercury Rave, Big Boss Man.
Can you hear me when I call? Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall, that's all. Got me working, boss man, working round the clock. I want me a drink of water, but you won't let me stop. Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall. Thank you. gonna get myself a boss man. One gonna treat me right. Working hard in the daytime, but I'll sure rest easy at night, big boss man. Can you hear me when I call? Oh, you ain't so fear. You're just tall, that's all.
Ça nous a peut-être un poil endormi, Mercury Rave, Big Boss Man sur France Inter.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est à Mariupol que s'arrête l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Et croyez-moi, vous n'aurez pas envie d'y passer vos vacances. La loi martiale, qui était en vigueur depuis 30 jours, a été levée hier. Vous vous souvenez des raisons de cette loi martiale? Elle avait été décidée par le président Porochenko dans le but de mobiliser les populations en cas de risque d'agression venant de Russie. Elle devait surtout répondre à l'intervention armée de la marine russe qui contrôle le détroit de Kerch à l'entrée de la mer d'Azov qui emmène donc jusqu'au port de Mariupol. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Fabienne.
Pendant 30 jours, Claude, 10 villes ou régions ukrainiennes frontalières de la Russie ont été concernées par cette loi martiale. Parmi elles, donc, ce port de Mariupol, 500 000 habitants au nord de la mer d'Azov. Vous allez nous faire entendre une population fatiguée d'être sous pression, mais partagée quant à l'attitude à observer vis-à-vis de la Russie qui est toute proche. Et on vous écoute.
Battus par le vent glacial de décembre et les vagues toutes proches, les miradors rouillés sont vides la nuit près du port de Mariupol. Il n'y a rien ou presque à surveiller. Éclairé par les lumières blafardes de grands lampadaires, on entend de loin en loin un chargement de minerais quitter le terminal pour rejoindre Azovstal ou Ilitcha, les deux grands complexes sidérurgiques à proximité. Propriété de l'oligarque ukrainien Rinat Akhmetov, ces usines emploient encore 40 000 ouvriers. Mais une partie de la matière première qui les alimente, en provenance d'Afrique ou d'Amérique, transite par le détroit de Kerch, désormais contrôlé par les Russes, et met davantage de temps pour entrer dans le grand port de la mer d'Azov.
Alexandre Loskotov, je vis à Mariupol, j'ai 44 ans.
Alexander est inspecteur pour le bureau Veritas sur le port de Mariupol.
Oui, les activités ont diminué, évidemment. Pas au moment de la construction du pont de Kerch, mais à partir de 2014, avec le début des troubles. Ce dernier mois, avec la loi martiale, rien n'a changé. On n'a pas senti de pression particulière. Peut-être que ça s'est ressenti dans d'autres villes, mais à Mariupol, rien de nouveau. Le pont de Kerch n'empêche pas les bateaux de passer. Ce qui les retient, ce sont les contrôles, qui peuvent durer parfois jusqu'à une semaine. Mais les bateaux peuvent passer. Je ne vois aucune nécessité pour la Russie d'entreprendre des actions militaires contre l'Ukraine. Je crois que si la Russie avait voulu le faire, elle l'aurait déjà fait avant.
Alexander n'en dira pas plus, sans doute en raison de ses origines russes, et à la différence de sa femme, Natalia, ukrainienne de 39 ans, professeure de langue étrangère à l'université de Mariupol.
Et on peut dire que c'est une zone tampon, si on peut dire comme ça, parce que l'agresseur est vraiment pas très loin de nous. On entend des tirs de Shirokino, même jusqu'à présent. On entend des tirs notamment à la partie est, qui a été attaquée malheureusement en 2015. On comprend qu'on ne vit pas dans une ville normale. À chaque entrée de la ville, il y a un poste de blocage.
Et là, on sent vraiment la tension de la guerre tout à côté.
Oui, surtout quand dans la nuit, on entend ces tirs. Quand on voit les militaires, on comprend que quelque chose se passe. Et tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer. Je crois que l'Ukraine, c'est notre patrie. Alors, il faut y vivre et faire tout son meilleur pour ce pays. Mais pas attaquer la Russie, cela n'amènera à rien.
Ce soir-là, Natalia est venue avec une amie, Marie, 32 ans.
À
Мария, живу в Мариуполе, работаю администратором в центре административных услуг Мариупольского городского совета.
Je m'appelle Marie, je travaille à la municipalité de Mariupol, au sein de laquelle il y a le centre des services administratifs où je travaille.
Malgré l'heure tardive, Marie veut bien nous emmener sur le port qu'elle connaît bien, à moins d'un quart d'heure en voiture.
Мы едем в порт. У нас в порту просто есть районы. Мы едем в 4-й район порта.
Dans le port, il y a des arrondissements. On va au 4e arrondissement du port.
Ну, у нас, наверное, два сердца. Это металлургические заводы и порт.
Il possède deux cœurs. Ce sont les usines métallurgiques et le port.
Я там просто работала.
C'est là qu'elle a travaillé. Ah,
c'est là. Qu'est-ce qu'elle a fait comme travail sur le port?
Я работала тальманом.
Le comptable des charges.
Et pourquoi elle a arrêté ça?
Ну, как женщине очень сложно работать по 12 часов, тем более на улице.
Il est très difficile pour une femme de travailler 12 heures de suite, surtout dans la rue, au ciel ouvert.
Честно говоря, нет, не сожалею абсолютно. Мне хватило этого с лихвой.
Franchement, je ne le regrette pas, ça m'a suffi et largement.
À peine arrivée au bord de la mer d'Azov et malgré l'obscurité, Marie se dirige d'un pas assuré vers la plage qui longe le port de Mariupol.
Очень хотелось бы верить в то, что она вернется, потому что ну, люди морально уже просто от этого истощены. Они устали просто бояться.
On voudrait espérer quand même de tout notre cœur que la paix revienne, parce que les gens sont épuisés par la crainte, par cette appréhension qui les hante.
На самом деле, очень хотелось бы отсюда уехать на Западную Украину.
Je voudrais beaucoup déménager dans en Ukraine de l'Ouest.
Marie regarde alors vers le large, en pensant aux 24 marins ukrainiens faits prisonniers par les Russes à l'entrée de la mer d'Azov le mois dernier.
Впечатление то, что пострадали невинные люди.
Tout ce que je peux dire, c'est que des personnes innocentes ont souffert.
Des marins ukrainiens qui sont prisonniers aujourd'hui.
Leur famille y compris.
Intimidée par une grosse voiture noire stationnée juste derrière elle, Marie se tait. Elle dit que sa journée de travail commence dans 4 heures. Ainsi va la vie au bord de la mer d'Azov, qui calme les esprits un jour et les angoisse le lendemain.
Claude Brouillot à Mariupol pour Un jour dans le monde. Claude Brouillot, correspondant de France Inter à Moscou, merci beaucoup. Et voilà qui va carrément nous changer d'ambiance. Voici Chuck Berry sur France Inter. Mais oui, Carole, et ça date de 58. Can't dance, I know you wish you could. temps d'écouter du Chuck Berry. Allez, vous êtes sur France Inter. Bonne soirée avec nous.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati. Per l'Europe.
Un jour dans le monde.
Géniale.
L'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte, l'Europe qui nous agace, l'Europe qu'on admire, l'Europe qu'on veut ou qu'on rejette avant le vote du mois de mai. Ce soir, c'est Angélique Bouin qui est à Bruxelles. Bonsoir Angélique.
Bonsoir.
Angélique, vous allez nous parler d'une initiative passée quasiment inaperçue, c'était à la fin du mois de novembre, le lancement par la Banque Centrale Européenne de ce qu'on appelle le TIPS, T-I-P-S, un outil de paiement instantané qui peut marcher entre nous, si on veut, Angélique, vous et moi, entre particuliers, entre un commerce et un particulier, entre deux entreprises. C'est une initiative européenne, c'est très concret, à condition évidemment que les banques jouent le jeu. Alors expliquez-nous comment ça marche exactement d'abord ce TIPS.
Eh bien, TIPS, on aime beaucoup les acronymes au sein de l'Union européenne. Celui-ci est assez joli, je dois dire. Target Instant Payment Settlement, c'est une plateforme interbancaire d'échange d'euros utilisable par les banques pour faire des virements express. Vous arrivez en retard au cinéma, Fabienne. Mm-hmm. Votre ami a payé votre place en moins de 10 secondes. Vous lui remboursez en lui transférant l'argent via vos deux smartphones. Votre adolescent veut s'acheter une paire de chaussures. Il n'a pas de carte sur lui. Vous envoyez la somme réclamée. Vous voulez acheter une voiture d'occasion, payer votre loyer, un billet d'avion. Ça marchera avec les commerçants ou encore les services publics pour payer une amende, par exemple. On peut donc tout imaginer. Concrètement, il faut que votre banque soit adhérente à ce système. Vous vous connectez sur son application, vous entrez le numéro de téléphone du destinataire ou bien son IBAN. Mais à terme, l'idée, c'est quand même de se débarrasser de ce code aux 23 caractères et de fonctionner plutôt avec des numéros de portable et un système de validation par code, pourquoi pas plus tard de reconnaissance biométrique. TIPS, ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'idée, c'est que ce soit très rapide. Et puis, autre avantage par rapport à la carte bleue, eh bien, il n'y a pas de plafond fixé par la Banque Centrale Européenne. Ce sont les banques nationales qui le fixent. Il est actuellement à 15 000 euros en France à ce stade. Sachez que ça peut bouger dans un sens comme dans l'autre, selon les futurs établissements qui vont adhérer.
Et ben justement, vous allez pouvoir me donner 15 000 euros d'un coup. Moi, je trouve ça plutôt réjouissant comme perspective, sauf qu'il faut que la banque ait adhéré justement au système.
Et oui, et lors du lancement officiel du TIPS, il y a quelques semaines, eh bien, seules 8 banques européennes avaient signé avec la BCE. C'est donc un pari pour que ça se développe. Il va falloir que tout le monde embraye. Ce sont les Espagnols avec 5 banques qui sont précurseurs en Europe. En France, seul le groupe Natixis qui représente la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne le propose de façon optimum aujourd'hui. Mais la plupart des grandes banques françaises disent s'y préparer pour 2019. La BCE vise, elle, 2000 banques présentes dans 16 pays de l'eurozone et a pour objectif d'ici 5 ans, 10 millions de paiements instantanés par jour, environ 10% des transactions effectuées aujourd'hui avec des cartes de paiement.
Donc on a bien compris que c'était très ambitieux, parce que ça existe déjà, non, ce type de plateforme ?
Oui, ça existe déjà. Les grandes banques n'ont pas attendu, et on va le dire, l'institution européenne pour se préparer à cette révolution des paiements instantanés. Il y a par exemple une autre plateforme bancaire, franco-belge, baptisée Stet, et puis des applications qu'on connaît tous, de type Paylib ou Lydia, très prisées des jeunes. C'est très répandu dans les pays scandinaves ou alors en Grande-Bretagne. Mais la différence, Fabienne, et c'est ce que fait valoir la BCE, c'est que TIPS met en connexion tous les pays de la zone euro. On peut faire des virements transfrontaliers à son enfant étudiant, par exemple, qui est en Espagne. L'idée, c'est de concurrencer les GAFA, qui se sont lancés sur ce marché du virement express, Apple Pay, Google Pay, et de ne pas se laisser distancer par les Américains, comme ça a été le cas avec les cartes de paiement, Visa, Mastercard. En fait, l'Europe bancaire n'existe pas sur le marché de la carte bleue, elle veut se faire une place sur le marché du paiement instantané.
Et dernière question, évidemment, combien ça coûte ? Parce que souvent, c'est ça le problème.
Là encore, on n'a pas une grande visibilité, d'autant plus que la plupart des banques françaises avaient plutôt misé sur Stet avant de voir arriver TIPS. Natixis dit qu'elle fonctionnera avec les deux systèmes. La Société Générale indique que l'autre plateforme, la franco-belge, a elle aussi vocation à fonctionner entre différents pays, que ça pourrait même arriver dès l'été prochain. En fait, il y a plein de groupes de banques en Europe qui travaillent depuis longtemps sur des systèmes d'interopérabilité. Et tout ça, ce sont des tuyaux qui pourraient marcher ensemble. L'inconnu aujourd'hui, c'est le coût, pas pour les banques, mais pour les consommateurs. Là, ça se corse. Vous imaginez bien que pour passer de virements entre particuliers qui prenaient 24 à 48 heures, Fabienne, j'avais besoin d'un peu de temps pour vous envoyer de l'argent, oui. À des virements à la seconde, il faut des investissements très importants parce qu'il faut sécuriser le transfert des données. Ça, c'est à la charge des banques. L'Association française des usagers des banques craint que ça coûte assez cher. Alors aujourd'hui, le virement par TIPS est facturé environ 1 euro. Pour les banques françaises ou espagnoles qui l'utilisent. Mais à terme, tout dépendra de l'offre de service, dit-on à Natixis, et de l'urgence, en gros, réclamée pour virer cet argent. À la BCE, on répond qu'on mise sur la concurrence, justement, qui fera baisser les prix. La Banque européenne, elle précise aussi, et ce n'est pas rien, que de son côté, l'idée, ce n'est pas de faire du profit. Le coût de sa prestation facturée aux banques nationales, c'est très minime, tenez-vous bien, 0,002 centimes d'euros. Ce sera donc sans doute que moins cher que pour une plateforme privée. La BCE qui en fait aussi un outil de promotion de l'euro face au dollar, hein, dans un contexte de guerre commerciale avec l'Amérique. Mais ça, c'est une autre histoire.
Allez, merci beaucoup Angélique Bon. La chronique à 15 000 euros, donc merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers et Franck Madvon. Franck, nos confrères de The Economist désignent le pays de l'année tous les ans. Et cette année 2018, c'est l'Arménie. Alors, quel pays on pourrait bien choisir? Nous, à France Inter, vous êtes penchés sur la question. C'est votre monde à l'envers de ce soir. Avant de nous dévoiler votre choix, quels étaient les nominés?
Alors d'abord, il faut savoir qu'on a passé un petit moment devant la carte du monde tout à l'heure. Et le bilan de l'année, il faut le dire, Fabienne, est assez désespérant. La vague populiste n'épargne aucun continent. L'Amérique du Sud y a succombé. L'élection au Brésil de Jair Bolsonaro en est sans doute le meilleur, ou plutôt le pire exemple. Le plus grand pays d'Amérique latine a choisi au sommet de l'État un ancien militaire raciste, misogyne, homophobe, qui sera officiellement investi mardi. Le Mexique a aussi désigné à sa tête un président controversé. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, homme de gauche, porteur d'espoir, qui promet de lutter contre la corruption notamment, mais on se demande comment il financera son ambitieux programme. L'état des lieux en Europe n'est pas plus encourageant. Les populistes sont au pouvoir en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Italie. Le Royaume-Uni est plus que jamais affaibli par le Brexit. Au Moyen-Orient, de nombreux dirigeants autoritaires sont aux commandes, et on ne parle pas des États-Unis ou de la Russie.
Alors, il reste malgré tout des postulants à ce titre de pays de l'année.
Alors, on peut citer l'Irlande, par exemple. Son économie se porte à merveille. C'est la plus dynamique de la zone euro. Et puis, en mai dernier, le pays a décidé, par référendum, d'autoriser enfin l'avortement. La loi est entrée en vigueur il y a 2 semaines. La Corée du Sud pourrait prétendre aussi à ce titre en raison de ses efforts diplomatiques. Son président Moon Jae-in est devenu un partenaire incontournable dans les discussions sur la Corée du Nord. Mais sa popularité est en baisse. Les résultats économiques déçoivent. La forte augmentation du salaire minimum, notamment, a fragilisé les finances publiques.
Et The Economist, alors, a choisi l'Arménie.
L'Arménie, où un soulèvement populaire a fait basculer le régime. Au printemps, le député Nicole Pachinian a été le chef d'orchestre d'une révolution de velours contre le président Serge Sarkissian. Des manifestations totalement pacifiques, elles visent alors la corruption et une classe politique déconnectée du peuple. Sarkissian finira par démissionner. Pachinian va lui succéder. Il a remporté ce mois-ci des législatives considérées comme exemplaires, 70% des voix. Une nouvelle ère s'ouvre en Arménie.
Alors donc, le suspense est insoutenable. Franck, dites-nous, quel est votre pays de l'année?
Alors, je vous propose, Fabienne, l'Éthiopie, le second pays le plus peuplé d'Afrique, hein, derrière le Nigeria, 100 millions d'habitants. L'Éthiopie a connu une année exceptionnelle. Il est dirigé depuis avril par un homme jeune, Abiy Ahmed, 42 ans, un réformateur qui a déjà fait beaucoup en quelques mois. En septembre, il a signé la paix avec l'Érythrée. Il a libéré des milliers d'opposants, de journalistes. Il a mis en place en octobre un gouvernement paritaire avec autant de femmes que d'hommes. Il promet des élections libres en 2020. Reste le point noir des violences intercommunautaires qui ont fait des centaines de milliers de déplacés ces derniers mois. Avant-hier, le Parlement a créé une commission de réconciliation pour mettre fin à ces violences. Un défi colossal, certes, pour Abiy Ahmed. Mais l'Éthiopie est en train de changer son destin. Et c'est donc, Fabienne, notre pays de l'année 2018.
Et vous avez sûrement raison, Franck, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. On va le suivre en 2019, ce pays, l'Éthiopie. Merci beaucoup. On reste ensemble pour le téléphone sonne. Évidemment, le journal, c'est tout de suite. Il est 19h.